Bonjour et bienvenue au Centre Pompidou pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Donc nous poursuivons ce programme de samedi série avec donc la projection en avant-première d'une série d'Arte, l'agent immobilier. Et je vais passer la parole à Sébastien Moge qui est journaliste à Télérama et qui va animer donc la rencontre qui suivra la projection.
Merci, bonjour à tous. Bonjour aussi à nos amis de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Reims qui nous regardent en direct. Nous allons donc assister à la projection du premier épisode de L'agent immobilier qui, je vous le donne en mille, parle d'un agent immobilier qui est au point mort dans sa vie, qui va apprendre en plus que sa mère vient de mourir et il hérite d'un immeuble désaffecté. Que va-t-il en faire ? Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'il s'agit d'une comédie dramatique empreinte d'un doux parfum surréaliste qui peut faire penser un peu à certaines œuvres de Bertrand Blier et qui nous rappelle que parfois, quand la vie était pleine, jadis, et qu'elle ressemble désormais à un immeuble désaffecté, peuplé de fantômes et de secrets enfouis, il faut affronter parfois ces fantômes pour sortir la tête de l'eau. C'est un voyage dans le temps aussi, dans la psyché du personnage principal, interprété par l'intenable, vous le verrez, Mathieu Amalric, bien aidé par l'impayable Eddie Mitchell et une troupe de comédiens formidables. Un voyage proche d'une thérapie sous hypnose, poétique et onirique, qui transcende la réalité. Cette série, nous la devons à Edgar Keret et Shira Geffen, auteur du film choral Les Méduses, je ne sais pas si vous vous souvenez, caméra d'or au Festival de Cannes en 2007. Après la projection du premier épisode, donc, nous aurons le plaisir d'en parler avec la productrice des films du Poisson, Yaël Fogiel, qui connaît bien les auteurs, qui connaît bien aussi Mathieu Amalric, puisqu'elle avait travaillé avec lui sur son film tourné, lui aussi récompensé à Cannes d'un prix de la mise en scène. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Merci. On m'a dit de redire bonjour à nos amis de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Reims qui nous regardent en direct et qui nous poseront peut-être, enfin qui vous poseront peut-être des questions durant cette rencontre. Alors avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet de l'agent immobilier, on va parler un peu de vous, Yaël Fogiel. Vous êtes né en Israël, vous êtes arrivé en France à l'âge de 21 ans, je crois. Vous êtes devenue directrice de production. Et vous rencontrez en 92 Laetitia Gonzalez sur le tournage du film d'Éric Rochant, Les Patriotes. Et vous décidez ensemble de fonder les films du Poisson. Alors, quelles étaient vos ambitions à l'époque quand vous avez créé les films du Poisson ? Quel type d'œuvre vouliez-vous promouvoir et défendre ? Le micro est là.
Alors, je pense que ça n'a pas changé. On avait envie de faire des films qui nous plaisent, des projets qui nous plaisent. Alors, il y avait l'idée aussi, au départ, de travailler avec des gens qu'on connaît, des gens proches, parce qu'on avait des amis qui étaient assez jeunes comme nous et qui rêvaient de faire du cinéma. Donc, on avait, au départ, l'envie de travailler avec nos amis et voilà, réaliser les rêves des amis et de faire en sorte que ça existe. Et après, ça s'est élargi à d'autres amis. Mais c'est vrai que ça restait dans... Voilà, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous intrigue, qu'est-ce qui nous surprend.
Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire.
Exactement.
Et donc, vous avez produit plus d'une centaine de longs-métrages.
Alors, pas de longs-métrages.
Courts-métrages et documentaires. Voilà. César du meilleur court-métrage pour Madame Jacques sur la croisette d'Emmanuel Finkiel. 5 Césars, plusieurs sélections et prix à Cannes, dont meilleure mise en scène, donc je l'ai dit en préambule, pour le film de Mathieu Amalric tourné. Et la caméra d'or donc pour Les Méduses d'Edgar Keret et Shira Geffen, qui ont donc fait l'agent immobilier. Alors racontez-nous un peu ce projet, l'agent immobilier. Comment est-ce qu'il est né, un projet un peu fou qui ressemble pas, et c'est tant mieux, à une série classique ?
Alors en fait au départ, donc depuis qu'on a fait Les Méduses, donc ça date un peu,
on 2007.
Avait 2007. Et c'est vrai qu'on avait envie de retravailler ensemble, mais puis on n'a pas Edgar très occupé à écrire ses livres. Shira écrit des livres pour enfants, fait des mises en scène en Israël de théâtre. Elle a fait un autre film entre-temps, donc c'est vrai qu'on cherchait un projet depuis un moment. Et puis Et puis un jour, Edgar, à chaque fois que je voyais Edgar, alors, donc moi je voyais Edgar, et à chaque fois que je voyais Edgar en Israël, à chaque fois il venait avec une histoire. En fait, et après il me racontait que ça le stressait de me voir sans avoir une idée. Donc il venait, il me racontait une histoire. Et chaque histoire qu'il me racontait était mais dingue et trop bien. Et je disais, mais c'est génial, on va faire un film avec ça. Mais ça ne donnait pas de suite, quoi. Jusqu'au jour où il raconte cette histoire, il me raconte une histoire d'un immeuble avec un agent immobilier qui n'est pas comme les autres, qui n'a pas de maison, qui n'a pas où habiter, où il y a une vieille qui habite. Voilà, il commence à raconter ça. Et là, je lui dis, mais peut-être c'est une idée pour une série. Et là, on se dit, pourquoi pas. Et puis, c'est vrai qu'il y avait l'idée aussi d'essayer de ramener en France un peu la tête israélienne qui est un peu différente, qui est peut-être qui est moins classique peut-être, mais de le faire en France et en français, donc de vraiment mélanger les talents pour donner autre chose, mais comme un projet français. Mais c'est pas une coproduction, c'est vraiment une série française, mais disons que les créateurs, les penseurs étaient israéliens, donc j'avais envie de faire ça. Et heureusement, il y a Arte. Et du coup, on va parler avec Arte. Et Arte, très vite, veulent voir ce que ça donne et nous suivre dans l'écriture de cette série.
Alors, Générique a écrit que c'est une adaptation des romans au pluriel d'Edgar Keret. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu
Il s'est inspiré pour quelques idées des personnages qu'il avait déjà créés, en fait. C'est-à-dire que le poisson rouge existe dans une des nouvelles qu'il a écrites, qui est très connue, qui s'appelle Le poisson rouge. Il y a une histoire qui finalement, ça restait vraiment très, très petit dans la série, mais au départ, avait un rôle plus important. C'est par exemple la colle. Le fait qu'il colle l'aquarium, là, il y a eu toute une histoire sur la colle qui est très importante dans ses nouvelles.
Voilà, pour coller les morceaux de sa vie.
Voilà, donc plus ou moins. En tout cas, voilà, donc c'est plus ça, c'est plus comme ça des thèmes qu'il a déjà traités et qui, au départ, devaient avoir un rôle plus important, qui petit à petit sont devenus autre chose. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, donc c'est pas une vraie adaptation, c'est une inspiration des thématiques qu'il a déjà utilisées.
Est-ce que vous pouvez nous parler des méthodes de travail d'Edgar Keret et Shira Geffen ? Et de votre lien avec eux, comment vous travaillez ensemble ?
Alors, au niveau de l'écriture, c'était fascinant, mais très probant, parce que donc ils écrivaient en hébreu et en Israël. Et moi, je vis ici, et du coup, c'était un peu compliqué parce que donc nous, on travaille beaucoup à l'écriture aussi en tant que producteur, c'est qu'on lit toutes les versions, on est présent, et puis on tourne nos auteurs. Et là, c'était un peu plus difficile parce qu'on était loin. Donc on a à la fois pris quelqu'un en Israël qui pouvait un peu les encadrer, c'est vrai qu'ils faisaient des rendez-vous réguliers avec eux, parce qu'en plus ils ont plein d'autres choses aussi à faire à part ça, donc du coup pour un peu encadrer, pour avoir le sentiment que ça avance. Et ce qu'on faisait, c'est que quand ils étaient prêts, moi je lisais, parce que je lis l'hébreu couramment, donc je pouvais lire la version originale. Ensuite, quand moi j'étais contente, on donnait ça à la traduction. Donc Raya Delvecchio, qui était ici à Paris, qui donc traduisait une première fois. Ensuite, on a corrigé la traduction entre moi et mon collaboratrice pour être bien proche de l'esprit d'Edgar Keret, pour être sûr que c'est bon. Et ensuite, on le donnait lire à mon associé Laetitia Gonzalez d'abord, ensuite à Arte, pour avoir les retours de tout le monde. Donc c'était un peu laborieux comme processus. Ça a pris un peu plus de temps, ça coûtait un peu plus d'argent, mais c'était très intéressant. Ça m'a impliqué un peu plus en tant que productrice dans le processus d'écriture, puisque j'étais frontale sur la première version à chaque fois.
Alors ça, c'est le travail en amont. En quoi consiste votre travail pendant le tournage, pendant la création? Est-ce que vous intervenez peut-être pour cadrer l'ambition des auteurs de temps en temps, en leur disant « bon ben, cette scène, ça ne va pas être possible, ça coûte trop cher, il faut peut-être réduire par-ci, par-là ».
Oui, on passe par ça aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est là, alors nous, on vient sur le tournage parce qu'on se sent responsable de nos œuvres. Donc, si on n'est pas là sur le tournage, on ne peut pas dire qu'on est responsable, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, en plus, là, on tournait en français et eux ne parlent pas français. Donc on avait des interprètes, et puis le tournage s'est passé en anglais, mais c'était bien aussi que je sois là puisque j'avais la langue hébreu aussi, la possibilité de communiquer avec eux et d'essayer de les aider, voilà, de se sentir bien. Et évidemment que mon rôle, c'est bien de regarder ce qui se passe et de voir si j'ai quelque chose à dire pour améliorer quelque chose, ou bien oui, de les encadrer bien sûr, parce que c'est quand même une série assez ambitieuse pour le budget de télévision, donc il fallait que ça tienne dans un budget, dans un cadre, dans un certain nombre de jours de tournage, etc.
Alors, en préambule, tout à l'heure, je parlais d'un ton un peu à la Bertrand Blier, un doux parfum surréaliste. Comment décririez-vous l'univers de la série?
Je dirais absurde et poétique. Mmh. Et lui, il disait, qu'est-ce qu'il me disait, Edgar Keret? Il me disait, c'est un mélange de... Alors, oui, il a dit Charlie Chaplin et David Lynch. Bon, c'est aussi absurde que...
C'est ambitieux,
sa série.
Effectivement.
Oui, il y a quelque chose d'absurde. C'est-à-dire que c'est Edgar, c'est un peu son esprit. Hein, si on connaît ses nouvelles, il est toujours réaliste et surréaliste en même temps. C'est-à-dire qu'il parle des réalités, mais il est toujours un cran au-dessus de la réalité. Et en même temps, il se base sur des choses très réelles. Et en même temps, c'est toujours un tout petit peu fantastique.
Oui.
Là, on a, voilà, il y a un personnage qui va évoluer pendant la série, qui est le poisson, qui a un rôle important. Et moi, ça me plaisait beaucoup de travailler sur des points comme ça qui ne sont pas totalement réalistes. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé beaucoup dans cette série, c'est l'évolution que la série prend. Je pense que si on voit l'épisode 1 et si on va jusqu'au 4e, on est très surpris, en fait, là où on va arriver.
Je confirme.
C'est ça qui était chouette aussi au niveau créatif, quoi, de faire une série très... Voilà, c'est étonnant.
Alors, au sujet du casting... est-ce que, comme vous aviez déjà travaillé avec Mathieu Amalric, est-ce que c'est vous qui avez suggéré son nom, ou comment est-ce qu'il est arrivé sur le projet?
En fait, Edgar, il y a quelques années, avait l'occasion de faire une lecture de ses nouvelles à l'Odéon, lors d'une sortie d'un de ses livres. Et il m'a demandé qui je proposais comme acteur pour lire, et je lui ai dit, tu peux demander à Mathieu. Amalric, qui ne connaissait pas, donc il le regardait, il dit ah, très bien, etc. Donc on a proposé à moi, je n'étais pas liée à ça, mais j'ai fait juste les liens pour ça. Et ils ont fait cette soirée à l'Odéon, où donc Mathieu a lu des extraits de livres d'Edgar. Il a obligé Edgar d'être sur scène et de lire lui-même des extraits en hébreu. Ils se sont très très bien entendus. Donc quand Edgar a voulu commencer à écrire la série, il a tout de suite pensé à lui. Donc on a même fait un dîner avant tout pour lui dire, voilà, il y a cette série, il y a ce personnage, est-ce que tu serais d'accord? Et il a dit oui. Et 4 ans après, il a dit, ah merde, j'ai dit oui. Ah là là. Et voilà, ça s'est passé comme ça.
En tout cas, son implication est remarquable. C'est un agent immobilier, mais pas vraiment immobile, puisqu'il court dans tous les sens. Là où dans Les Méduses, c'était plutôt un film choral, là on a l'impression que c'est le centre de gravité et beaucoup de personnages tournent autour de lui. Il a vraiment une énergie. Dans les épisodes suivants, on voit le manège enchanté et Zébulon. On peut dire que c'est un peu le Zébulon de la série.
On peut dire, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Mathieu Amalric sur le tournage?
C'est un personnage étonnant parce que c'est un acteur très très impliqué, et puis il aime beaucoup Edgar et Shira. Il les a connus aussi. Après, il était en Israël pour un tournage de Amos Gita. Il est allé les voir, donc ils se sont vus. Et il a vraiment... je pense que quand il choisit, peut-être pas toujours, parce que des fois, il peut choisir peut-être des rôles pour l'argent, etc. Ici, c'était vraiment... Il a choisi parce qu'il voulait travailler avec eux. Il voulait vraiment collaborer avec leur tête, leur imaginaire. Et du coup, il voulait vraiment se mettre au service de leur imaginaire. C'était vraiment très beau à voir comment il a vraiment essayé toujours de comprendre qu'est-ce qu'il veut raconter pour pouvoir le transmettre. Donc c'était un partenaire absolu de cette série, ça c'est clair. On était tous épatés de voir à quel point il est rentré dedans, quoi. Il a accepté de se lâcher. Je ne l'ai jamais vu aussi fou. Voilà.
Et alors, il y a Eddie Mitchell, qui est assez incroyable et qui le sera encore plus au fur et à mesure. Comment ça s'est passé avec Eddie Mitchell?
C'était génial. C'était très étonnant parce que bon, on le connaît pas, on connaît qu'on n'a jamais travaillé avec lui, etc. Donc c'était un peu un coup de poker. C'était une idée de ma collaboratrice d'ailleurs, Inès, qui lançait ça, et parce qu'il voulait quelqu'un d'assez rock pour le père. Et du coup, c'est Eddie Mitchell, on dit waouh, c'est une super idée. Et ils le connaissaient pas, donc ils ont vu plein de choses. Ils ont dit ah bah c'est lui. Et donc on a proposé. Et il a lu et il a dit oui. Et il a rencontré Edgar Achira et il a adoré l'idée. Et il a été un super partenaire aussi, vraiment d'une grande...
Quelqu'un de très cinéphile, Eddie Mitchell.
Oui, et puis c'est... Alors, d'une intelligence, voilà. Il a beaucoup aimé les textes, ça lui a fait rire, il a trouvé ça génial, parce que c'était disjoncté. Il a dit toujours, on propose des trucs hyper carrés, hyper classiques, enfin un truc rigolo, même si son rôle est plutôt petit, c'est pas le rôle principal. Et ça l'amusait de jouer avec
on
Mathieu.
On sent qu'il s'amuse, oui. Ouais.
Ah, c'est sûr, il s'amusait, ouais, grave. Et il était très généreux, très, vraiment très, très généreux, très simple, c'était un plaisir de travailler avec lui.
Quelles étaient les conditions de tournage? Est-ce que tout s'est passé comme vous le souhaitiez? Ou est-ce qu'il y a eu des petits problèmes, des choses...
Il y a la première assistante là, qui pourrait en parler, elle est dans la salle. Je pensais que c'était très dur. Hein. Mais c'est tout le tournage. Hein. J'ai jamais connu un tournage où c'est lisse. Hein. Il y a toujours des problèmes. Ça. En plus, là, il faut dire, on a dû faire une coproduction avec la Belgique. Aussi pour des raisons financières, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour financer cette série. Et du coup, on a tourné beaucoup en Belgique. Et du coup, c'était pas facile d'avoir des réalisateurs israéliens qui parlent pas français et qui, en plus, sont à Bruxelles. Tout ça, c'était pas facile. Après, on a tourné dans un immeuble, donc dans le conservatoire.
Alors, est-ce qu'il existe ce fameux immeuble, ou est-ce qu'il y a des scènes en studio dans certaines de ces pièces?
Il y a juste le moment du jacuzzi qu'on a fait, le jacuzzi et le.
Ah, on n'y est pas encore, le jacuzzi.
Ah oui, c'est vrai.
Mais ça vaut le coup.
Un jacuzzi qui tombe. Non, donc ça, c'est
si vous voulez voir d'autres parties d'Eddie Mitchell, il faut voir la scène du jacuzzi.
Oui, inoubliable. Et c'est vrai que. Non, et donc du coup, on a trouvé, mais on a beaucoup cherché, on a du mal à trouver. On a trouvé, en fait, c'est un immeuble de conservatoire de musique de Bruxelles où il y avait une partie presque désaffectée.
Oui.
Donc il était plutôt dans le côté détruit, donc la partie plutôt présent et que donc on a repeint et arrangé pour la partie passée.
D'accord.
Et donc on a pu investir cet immeuble pendant tout le temps de tournage, puis l'extérieur on les a fait à Paris. Voilà. Donc voilà, donc c'était super, mais intense.
Est-ce qu'il y a déjà des questions peut-être dans le public? Oui. Alors, je vais me déplacer.
Merci, bonjour. J'ai trouvé qu'effectivement les dialogues étaient complètement disjonctés et totalement fous, et j'étais intéressée par le fait que vous disiez que les dialogues étaient d'abord écrits en hébreu et ensuite vous les aviez traduits en français. Donc à quoi est-ce que vous donnez à quel élément vous donnez cet esprit un petit peu fou des dialogues? Est-ce que ça vient de votre style à vous? Est-ce que ça vient du fait que c'est traduit?
C'est Edgar Keret et Shira Geffen pur et dur. Hein. Je suis contente qu'on a réussi à les traduire comme il faut, parce que franchement, quand je lisais les textes originaux, mais c'était ça, hein. C'était vraiment ça. C'était brillant, drôle et vraiment disjoncté. Et c'est vrai que la difficulté était de comment traduire cet esprit-là, comment arriver à la hauteur. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait une traductrice vraiment super, qui est Raya Develkio, qui a travaillé et qui est la pauvre, a traduit plusieurs fois parce qu'on a corrigé, donc à chaque fois elle devait traduire et retraduire. Et c'est vrai qu'on a repassé derrière, comme moi je connaissais très bien aussi les styles et l'hébreu et ma langue maternelle, etc. Donc on a encore repassé avec donc ma collaboratrice Inès Dayan sur les textes pour être au plus juste de la traduction. Donc je pense que c'était un travail très important, le travail de la traduction, de comment, parce que c'est vraiment à l'original que c'est aussi brillant, hein, c'est sûr. On a juste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a veillé que ça soit 3D au millimètre, au mieux.
En tout cas, ça donne un style très original, en tout cas au dialogue.
Comment ?
Ça donne un style original au dialogue.
Oui, 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 c'est vrai.
D'accord, merci.
Est-ce que...
D'autres questions ?
Sinon, j'en ai. Hein, c'est... est-ce qu'il est désormais plus facile de créer ce type d'œuvre originale, comme disait madame, à la télé plutôt qu'au cinéma ? J'ai rencontré Laetitia Masson l'année dernière pour sa mini-série pour Arte également, Aurore, et qui me disait que la télé était devenue un terrain de jeu beaucoup plus appréciable que le cinéma pour créer ce type d'œuvre qui sort un peu de l'ordinaire.
Disons que moi, ce que je trouve bien avec l'évolution des séries, etc., c'est la possibilité d'avoir plusieurs guichets, de pouvoir faire des choses pour le cinéma encore et pouvoir aussi faire des choses pour la télé. Et cette œuvre-là, on l'a pensée depuis le début pour la télé, depuis le début pensée en série. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'on a pensé pour le cinéma. Donc alors, j'ai dit encore une fois, pour moi, c'est, je travaille beaucoup avec Arte. Je suis contente de travailler avec Arte parce que ils nous permettent aussi d'être créatifs et de pouvoir réaliser et produire. C'est pas parce qu'ils sont là que je dis ça. Ils savent que je pense ça et ils savent que c'est une bataille aussi et que il y a tout le monde, on se bat ensemble pour imposer ça aussi à la chaîne. Hein. C'est un travail commun, mais c'est vrai que c'est ça qui est rare. C'est génial. Pour nous, c'était génialissime de pouvoir faire ça pour la télévision. Après, c'est vrai, le cinéma, c'est difficile. Ça a toujours été difficile. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il y a plus de films maintenant. Et qu'il y a, voilà, donc, c'est peut-être... donc, heureusement qu'il y a aussi la possibilité de proposer d'autres choses aussi à la télé. Mais c'est, pour moi, c'est complémentaire. On fera des choses aussi pour le cinéma qui restent encore un vote. Il faut qu'on s'invente aussi comme producteur de comment produire maintenant pour le cinéma. Bon, c'est plus dur, et ben, il faut produire avec moins d'argent. C'est pas la fin du monde. Il faut s'adapter, il faut trouver les... Et c'est vrai que pour nous, comme une boîte de prod, ben, de faire des séries aussi et du cinéma, et là, ça nous permet aussi de continuer à faire, comme on a dit, les œuvres qui nous tiennent à cœur.
Est-ce que vous pensez, comme Martin Scorsese, qu'il y a trop de films Marvel qui envahissent les salles et qui ne laissent pas la place à des œuvres un peu plus exigeantes ?
Alors, j'adore Martin Scorsese.
Et il que doit vous retrouvez dans Télérama cette semaine.
Voilà. Et avec une interview que tu as faite, donc voilà. Et non, mais il a sûrement raison. Après, il y avait toujours ça. Il y avait toujours les grands et les petits. Et c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile maintenant pour le cinéma, mais voilà, il faut se battre, il faut continuer à faire, il faut trouver d'autres façons de faire. Moi, je pense que la salle, elle doit profiter aussi de l'explosion de la télé, et puis voir des séries, par exemple. Et puis, je pense qu'il y a des schémas. Il y a toujours des gens pour aller au cinéma, on le voit bien, même avec des films qui ne sont pas des Marvel. On va prendre l'exemple incroyable des Parasites, un film coréen. Qui fait ce qu'il fait comme entrée, c'est une preuve qu'un film d'auteur...
Mais Palme d'Or.
Voilà, ok, donc... Palme d'Or, super, mais quand même, il y a eu des Palme d'Or qui n'ont pas fait un succès comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même, et que les gens s'intéressent quand même d'aller le voir, même si c'est en coréen et en version originale, et un film de genre qu'on dit qu'en France, le film de genre ne marche pas, et ben voilà, donc du coup, alors c'est des exceptions. Mais il y a des possibilités encore, c'est-à-dire que moi j'y crois toujours qu'on peut encore faire nos films. Alors même s'ils sont peut-être moins bien exposés, bah, il faut les exposer comme ça, comme ça, comme ça. Il faut trouver son chemin ça, et continuer à se battre, c'est tout.
Est-ce que vous me disiez tout à l'heure que vous aimeriez projeter L'Agent Immobilier dans des salles et les 4 épisodes d'affilée, donc comme si on allait voir un film de 3 heures?
Oui. Alors, c'est plutôt en termes de promotion pour la diffusion, parce qu'on cherche aussi de voir comment on peut justement innover ou voir comment on peut créer un buzz sur cette série et donner aux gens envie de la regarder quand elle va passer sur Arte. Donc, on s'est dit que comme on a des gens qui ont fait du cinéma, on a un lien là entre le cinéma et la télé, puisqu'on a Mathieu Amalric qui écrit, il y a Eddie Mitchell, donc c'est attractif. On s'est dit que si on fait quelques projections en termes de promotion et qu'on pourrait, il faut voir ce qui est bien, je parlerai bien avec les programmateurs du cinéma, voir qu'est-ce qui est bien, est-ce que c'est bien de donner une partie, est-ce que c'est bien de tout donner, mais c'est vrai que quelques expériences dans des festivals où on a projeté le 3 heures d'affilée, ben c'est très bien passé. Donc c'est pas un long métrage divisé en 4, c'est une série de 4 épisodes, mais qui peut se voir en entier, parce que ça fait que 3 heures, on a tous consommé des 3 heures d'affilée sans problème sur des séries voilà, plus longues, je pense.
D'ailleurs, Arte me disait que la série, on pourrait l'avoir début 2020. On ne sait pas encore s'il y aura les 4 épisodes d'affilée ou si ce sera 2 soirées, justement.
On sait que ça sera a priori en une seule soirée.
Voilà.
Mais à la fois, ça c'est uniquement l'antenne. Vous savez, on a plusieurs antennes maintenant. Donc l'existence digitale de la série, elle sera aussi importante pour les spectateurs que l'existence de la diffusion linéaire. Donc diffusion linéaire sur une seule soirée, mais présence sur beaucoup d'écrans. D'où d'ailleurs le goût des films du Poisson et de Yaël de promouvoir le fait que certains puissent le voir en salle aussi, oui. pour être les meilleurs relais de promotion.
Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je regarde sur ma tablette si... On en a quelque part. Eh bien non, pas de questions en province. Alors on va peut-être parler de votre futur projet pour une chaîne qu'on connaît bien, je crois que c'est Arte. Et comme par hasard. En thérapie, c'est ça? Est-ce que
oui.
Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, En Thérapie, c'est une série donc israélienne qui a été donc créée en Israël par Hagai Levi et qui a été adaptée dans plusieurs pays, dont aux États-Unis, ça s'appelle In Treatment par HBO, oui. Il y a longtemps. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et il y a eu quelques tentatives de la faire en France, l'adapter en France, mais qui n'ont pas abouti. Mmh. Surtout, je pense, parce que c'est une série très longue, qu'on n'a pas peut-être l'habitude. Je pense que c'est pour ça, ou je ne sais pas, en tout cas.
Oui, c'est des saisons d'une trentaine d'épisodes,
en
si
fait,
je me souviens bien.
L'original était 45 épisodes de 26 minutes, donc c'est très très long. Et donc, c'est une série sur un psy qui reçoit des patients. Donc c'est aussi un concept très particulier puisque c'est évidemment une série sur des personnages, mais c'est à chaque fois 2 personnes, c'est-à-dire le psy et son patient. Et on suit comme ça la thérapie. Chaque semaine, il y a le même personnage qui revient et son histoire qui évolue. Et donc comme ça, 4 personnages, plus les psys qui va voir son propre psy pour commenter tout ce qu'on a vu, tous les patients, et parler de ses problèmes à lui. Et en fait, nous, on a beaucoup aimé cette série, et quand on a rencontré Hagai Levi pour d'autres choses, il nous a dit, mais comment ça se fait qu'en France, on ne l'a pas fait? On va essayer de le faire.
On aime bien les psys en France, pourtant.
Voilà. Oui, c'est pour ça, on se dit. Il me dit, les pays des psys, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, n'ont pas adapté. En Pologne, en Italie, en Espagne, en Amérique, tout. Alors, donc, ok, on va essayer. Et du coup, on a eu l'idée de le proposer à Toledano et Nakash, les 2 réalisateurs que tout le monde connaît, parce qu'on s'est dit que ça va les intéresser. On les connaît un peu d'origine, parce qu'ils étaient, quand ils faisaient des courts-métrages, ils étaient dans le même immeuble que nous. Voilà, donc on les a connus tout petits comme ça, et puis un jour ils sont partis, puis ils sont devenus très très grands. Voilà. Et du coup, on a gardé un contact comme ça, on savait qu'ils allaient les intriguer de faire autre chose. Ils aiment bien aussi faire des choses inattendues, donc du coup, on leur a parlé, et ils ont eu une super idée d'adaptation. Donc on prenait le même personnage, mais l'idée était de placer cette série post-attentat au Bataclan. Donc 2015, quelques jours après. Donc les patients sont tous plus ou moins, en tout cas, touchés par cet événement. Et donc c'est un peu la psychose française, la nouvelle psychose française post-attentat. Et on trouvait ça fascinant parce que tout d'un coup, c'est devenu une série réellement française et de la société française. Et du coup, là, on est en tournage en ce moment avec Arte qui a eu encore une fois l'audace d'accepter. Donc on fait 35 épisodes. Et donc c'est long comme série, c'est fascinant.
Et le psy sera joué par?
Par Frédéric Pierrot.
D'accord.
On a Frédéric Pierrot qui joue le psy, puis après on a des acteurs comme la psy qui joue son psy à lui, c'est Carole Bouquet. Et il y a Mélanie Thierry qui joue une patiente, on a Reda Kateb qui joue un patient, et on a le couple... Alors, Pio Marmaille et Anaïs Dumoustier qui jouent le couple qui vient en thérapie aussi.
Pas mal.
Voilà, en gros.
On a hâte.
Ouais, ça va être bien.
Une question, Une, deux,
allez,
trois.
Allez, le public.
Ah oui.
Attendez, on va vous passer le micro.
Oui, oui, c'est vraiment pas une question très savante. Il me semble avoir vu la série Thérapie il y a une dizaine d'années aux Pays-Bas. Est-ce que c'est possible ?
C'est tout à fait possible.
Oui. Ah, c'est, alors, j'en ai un souvenir absolument extraordinaire. Je ne comprends pas bien le néerlandais, même très mal. C'était pas sous-titré. J'étais chez des gens en parlant anglais là-bas avec les amis. C'était évidemment pas sous-titré en anglais. Il y a pas de raison. Et j'ai malgré tout, je me souviens, j'ai vu 2-3 épisodes. Donc je me réjouis d'apprendre ce soir qu'on va avoir la même chose.
C'est vraiment réjouissant et c'est vraiment super intelligent. Et vraiment, ça a été adapté par des scénaristes français et ça a été super bien adapté. C'est un plaisir des textes. On est en plein dedans, on voit des rushs tous les jours et tout. Et vraiment, c'est super. Ça va être super.
Une autre question ?
Oui.
Alors.
Merci. Du coup, c'est pour continuer sur Thérapie. Je suis très fan de l'original, enfin pas de l'original du coup, mais de la version américaine. Mais du coup, de ce que vous dites, ça va être parce que la version américaine est très très proche de la version israélienne. Ils avaient fait une comparaison à Série Mania il y a quelques années entre les deux séries. Ouais. C'était vraiment très proche. Du coup, là, si vous dites que ça va être post-attentat, ça va être des histoires très différentes. Qu'est-ce que vous allez garder des trames originales du soldat, de la gymnaste, etc.
On garde les personnages, en fait. Mais pour vous donner un exemple, Ariane, qui est donc la première patiente qui donc, tombe amoureuse du psy et qui va lui faire une déclaration d'amour dès la première, du premier épisode, c'est une chirurgienne qui travaille à l'hôpital et qui vient le premier jour où elle vient, c'était après ce week-end où elle a été à l'hôpital et tout ce qu'elle a vu. Donc ça change le personnage, c'est pas le même personnage, vous voyez. Donc on part de même histoire, mais les personnages sont différents. Les personnages sont bien ancrés dans la société française. Je vais pas tout vous dire, mais évidemment que le personnage du soldat, c'est quelqu'un qui était au Bataclan en termes de force française. Je sais plus comment ça s'appelle la brigade BRI, et qui donc a un trauma qui est lié plutôt à ça. Donc et il a une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire du personnage israélien ou américain. Déjà, israélien et américain, c'était pas le même. C'est vrai que mais donc on va un peu plus loin que c'est vrai que la série américaine dans l'adaptation. On est plus français dans l'adaptation.
Merci.
J'ai une question de Kevin de Reims qui demande est-ce que tout le monde a adhéré à l'univers si particulier des deux réalisateurs sur le tournage ? Parce que vous disiez que c'était compliqué déjà avec la barrière de la langue, etc. Plus des scènes un peu surréalistes.
Au niveau de l'équipe, si la question concerne l'équipe de tournage, tout le monde,
acteurs, oui.
Oui, tout le monde a adhéré et tout le monde a beaucoup aimé. Alors, des fois, on avait du mal à comprendre ce qu'il voulait exactement, donc des fois, il fallait qu'il explique un peu plus quelle était son idée ou qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire, parce que des fois, ça paraissait tellement fou que voilà, on avait besoin un peu de sous-texte, mais les gens qui ont lu les épisodes, les gens qui collaboraient à tous les niveaux, que ce soit le décorateur par exemple, c'était des gens qui vraiment ont beaucoup beaucoup aimé cet univers. Alors c'est vrai que là, vous avez vu qu'un épisode, donc c'est vrai qu'on n'a pas tout le... C'est vrai que quand on lit le tout, on est juste pris, quoi. Donc c'est vrai que tous ceux qui ont travaillé avec les acteurs, tout ça, donc des fois, il fallait aller plus loin dans l'explication de où il va en venir, mais c'est vrai que tout le monde était très intrigué.
Oui.
Et très intéressé, oui, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à Kevin.
Je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre, à moins qu'il y ait une dernière question, peut-être. Sinon, deux en plus.
Allez,
les deux dernières.
Bonsoir, merci. On est à l'heure des coproductions internationales, justement. Vous amenez deux bons auteurs israéliens. L'Israël est un vrai vivier de beaux concepts. Est-ce que, justement, on va commencer à glisser vers ces écritures internationales, Israël, France peut-être? Est-ce que ça ouvre bien le chemin à ça?
Oui, je pense, j'ai l'impression d'être un peu la pionnière.
Oui.
Ce schéma, parce qu'on voit bien, il y a déjà deux séries qui ont été tournées là, qui sont des auteurs israéliens ou des auteurs français qui sont allés en Israël. Il y a vraiment deux séries qui, comme ça, internationales, avec un réalisateur israélien, mais qui fait ça pour une chaîne française, une production française, entre autres d'ailleurs. Je ne sais plus le nom des séries, tout ça, toi tu sais par cœur, mais ouais, je sais qu'il y en a deux qui sont post cette série-là. Hein, donc, ouais. Et puis, il y a cette initiative de Sérimania avec une fondation en Israël pour une écriture croisée entre la France et Israël. Moi, je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on n'a qu'à gagner des deux côtés, d'ailleurs, parce que là-bas aussi, ils cherchent d'abord d'autres façons de créer. Du coup, cette collaboration, elle est très intéressante. Après, moi, j'espère aussi qu'il y aura d'autres pays sur lesquels ça va s'ouvrir. Ouais. Cet échange des talents est toujours très, très intéressant. Et c'est vrai que nous, au Film du Poisson, on a toujours été intéressés par le regard. Alors, on a fait beaucoup de films français à l'étranger. Quand on fait « Depuis qu'on a réparti » de Julie Bertuccelli, donc une cinéaste française qui va en Géorgie, ça nous intéressait, ces mélanges-là. Donc du coup, cette histoire-là, de cette série-là, est la continuation de ça. Et je pense que dans les séries, ça va que... Et c'est bien que les frontières tombent un peu à travers la création. C'est quelque chose de positif dans ce monde difficile dans lequel on vit.
Et la dernière question.
Merci, bonjour. C'était un petit peu dans la continuité de la question, c'était par rapport à la créativité, puisqu'il y a eu un article de Télérama sur le sujet de ce qui est fait là-bas en Israël au niveau des séries, et de savoir si celle-ci s'inscrit dans cette dynamique qu'ils ont là-bas de trouver des sujets originaux et de les traiter sous un angle justement qui jusqu'à maintenant n'était pas abordé tel qu'on le connaissait.
Je pense, en tout cas, cette série-là a été, donc on a commencé à l'écrire il y a 4 ans. Donc c'est vrai que c'était avant ce temps-là, c'était une première, il me semble. Il n'y avait pas encore cette vague de coécriture entre les deux pays, donc c'était une première, mais c'est vrai que c'était la volonté chez nous, au Poisson, démélanger, genre de prendre encore une fois la tête israélienne qui était un peu différente, qui pensait un peu différente, pour un peu ébranler, disons, les séries françaises habituelles. Mais de faire une série française. Et je pense que ça, c'est pas que ça a ouvert le chemin. Arte était dans le même sens, intéressé. Parce que c'est pas pareil de coproduire une série israélienne, c'est différent que de mélanger les talents. Là, c'est le mélange des talents. Je pense que tout le monde a envie de ça pour donner des choses différentes, originales, qui rénovent le genre. Donc, je pense qu'on est dans une lancée plutôt positive là-dessus. Et il y a tout un colloque qui va se faire. Il y a une bourse qui a été donnée pour écriture commune. Et nous, on continue à chercher aussi des sujets qui peuvent peut-être venir de là-bas et être très bien appliqués ici, ou le contraire. Voilà.
Merci, Yael Fogiel. Merci à vous. Merci à Kérine de Reims. Et donc, la suite de l'agent immobilier, ce sera début 2020 sur Arte. Bonne fin de journée. C'est pas fini, samedi série. Profitez-en. Et à bientôt.
Et on se retrouve donc à 18h pour une rencontre avec Valérie Donzelli.